Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez La Touche F1, le podcast qui parle plus de Formule 1 que de clavier. Ce soir, nous allons revenir sur le Grand Prix de Bahreïn, la première course de la saison 2023. Et pour revenir dessus, je suis accompagné de Cazelu, Chini et Spiger.
Bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et comment allez-vous?
Eh ben ça va très
Ça
bien.
va. Très bien.
Eh bien, parfait. Bien, nous allons entamer en fait cette première émission avec un peu la continuité de l'émission de pré-saison qu'on a réalisée, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire en 4h30. Et on va vous diffuser les capsules temporelles des membres de l'équipe qui n'étaient pas présents à la première émission. Donc les petites capsules qui visent à annoncer, à pronostiquer ce qui va se passer à la mi-saison et à la fin de saison, qui ont été enregistrées par McLovin et Spager.
Et hop, ça c'est l'annonce la plus discrète pour dire que
Bon.
le 5 et 6e membre de notre pote, de l'équipe, c'était McLovin et Spiger. Bonjour, bienvenue messieurs!
Je les lance. Bonjour, bonsoir messieurs, je vous enregistre donc ma capsule temporelle. Donc mon commentaire pour la mi-saison, ça sera... on a de la chance d'avoir une telle lutte entre ces trois pilotes depuis le début de championnat, là, entre Verstappen, Leclerc et Russell. Vraiment une belle bataille, on n'avait pas cette impression après l'excellent début de saison de Red Bull, mais là on est content qu'on ait une vraie bataille pour le championnat. C'est quand même sympa, on a hâte de voir ce que ça va donner pour la suite et la fin de la saison, quoi. Et surtout, je mettrai un petit accent pour le podium de Hülkenberg. Enfin, il a son premier podium, Hülkenberg, à Jeddah, avec la course folle qu'on a eue. Je suis content pour lui. Voilà pour mon commentaire demi-saison. Mon commentaire pour la fin de saison, ça sera... Ah, enfin le titre pour Ferrari et Leclerc! Forza Ferrari! Enfin, ils le méritent, hein. Ils ont vraiment fait une très bonne saison, un peu peut-être aidé par le manque de développement dû à leur pénalité d'études de soufflerie par Red Bull qui s'est un peu effondré en fin de saison, et puis peut aussi par Mercedes, quoi, les pénalités qu'ils ont reçues pour être passés plusieurs fois sous le poids limite. Voilà, c'était quand même voilà, c'est quand même assez cocasse de les revoir peindre leur ponton en fin de saison pour être sûr de pas se faire pénaliser. Voilà, messieurs, mes commentaires. Bonne journée, à plus.
Bon, allez, je me lance. Écoutez, on s'attendait en début d'année à une domination Red Bull. Écoutez, on peut dire qu'on a été servi. 13 Grands Prix, 13 victoires pour Max Verstappen. C'est du jamais vu. Ça nous a bien bien assommé. Les perspectives de resserrement de la hiérarchie induit par le nouveau règlement, on oublie. On n'a jamais vu une telle domination. Mercedes et Ferrari ont eu droit qu'aux accès site. La bonne surprise, c'est Aston Martin qui fait bonne figure en tant que quatrième force du plateau. Mais voilà, c'est difficile de retirer grand-chose d'une telle demi-saison, tant elle a été assommée par Verstappen et par Red Bull.
Fort bien.
Voilà.
Il reste à
Ah
faire la
vache.
fin de saison.
La déprime.
On peut varier les plaisirs pour la fin de saison. Allez, je me lance. À mi-saison, la question c'était est-ce que Red Bull et Verstappen vont réussir un grand chelem historique, remporter tous les grands prix de la saison? Écoutez, on ne s'attendait pas à ce qui allait nous tomber dessus, hein, cette enquête de la FIA sur le dépassement budgétaire et la disqualification pure et simple, enfin l'exclusion pure et simple du championnat de Red Bull. Ça, on l'avait pas vu venir, évidemment, ça a totalement rebattu les cartes, de même que les lourdes sanctions qui se sont abattues sur Mercedes et Ferrari, qui ont respectivement pris 50 points de pénalité. Résultat, on a un champion surprise, Fernando Alonso, sur Aston Martin. Je crois que ça personne n'avait vu venir. Quel crédit faudra-t-il accorder à ce titre mondial de l'espagnol, le troisième, presque 20 ans après les deux premiers? Bah écoutez, l'histoire jugera. En tout cas, une saison très, 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 très curieuse.
J'achète, je veux ça. J'aime beaucoup, c'est parfait. Voilà, bon,
Bon.
j'ai du mal à ne pas éclater de rire sur la deuxième capsule de McLovin. J'aime beaucoup. Ils ont été plus vaillants et plus ils ont osé un peu plus que nous, Shinji Iwiku.
Je demande ce que j'allais dire, j'avais peur d'être le seul à avoir pris des risques, mais non, le commentaire de fin de saison de McLovin,
Je
il a lui
suis
aussi
moi le
pris
seul
des
à ne
risques.
pas en avoir pris du tout.
Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Alors, petite précision extrêmement importante. Je certifie sur l'honneur, je jure sur l'honneur que Spiger et McLovin nous ont fait parvenir ces enregistrements, leur capsule temporelle, avant la première course.
Je confirme.
Tout à fait.
Non, parce que bon, on vous diffuse ça après le Grand Prix de Bahreïn, mais bon, de toute façon, quand vous avez entendu celle de Spiger, je pense que vous vous doutez que c'était. Ça n'a pas été enregistré après Bahreïn.
Je maintiens mon commentaire de mi-saison.
Ah, mais enfin, peut-être que de tous, c'est toi le plus audacieux. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Messieurs, on commence par un rapide point actualité. Et Cazlu, c'est toi qui est le porteur des nouvelles cette semaine.
Merci Wiku. Eh bien, dans le journal de la Formule 1, dans le journal de la Chouche F1, pour cette fois-ci, nous avons quelques petits faits d'actualité à vous commenter depuis notre épisode précédent. Tout d'abord, rapidement, on va aborder le fait que dans le cadre du règlement qui impose aux pilotes de ne pas porter de bijoux au volant, Lewis Hamilton a reçu une dérogation définitive vis-à-vis de son piercing au nez grâce à un certificat médical. Qui prouve simplement, enfin qui montre simplement que si Lewis Hamilton devait enlever et remettre son piercing à chaque course, il y avait un risque de défiguration, ce qui a été pris en compte par la Formule 1 et mis en et qui a été voilà balancé avec pardon pour l'anglicisme, avec les risques encourus d'avoir un petit piercing dans le nez en courant. Il a été jugé que c'était pas si grave que ça, et donc Hamilton a une dérogation, il peut courir avec son piercing dans le nez. Alors voilà, je citais ça simplement parce que je trouve que la décision est un peu bancale personnellement. Je trouve que soit on considère que c'est dangereux de courir avec des piercings, quels qu'ils soient, comme c'est écrit dans le règlement, et à ce moment-là, il faut imposer à Hamilton de ne pas les porter. Le risque d'enlever et de remettre, d'être défiguré en enlevant et remettre son piercing, d'accord, je veux bien, mais ça c'est s'il le remet. S'il faut qu'il choisisse entre porter un piercing et courir, et ben soit. Et si on juge que c'est pas si grave que ça, ce qui peut s'entendre aussi, ben à ce moment-là, la règle ne se justifie pas. Donc voilà, moi bon, c'est pas honnêtement, c'est pas extrêmement grave, c'est juste que ça décrédibilise un petit peu, je trouve, la FIA vis-à-vis de son propre règlement. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un commentaire là-dessus.
Moi, je t'avouerais que ça me choque pas tant que ça au final, parce qu'en fait, ce que fait Hamilton, c'est ce qui est toléré dans plein d'autres domaines. En fait, typiquement le travail, les contrats, ce genre de choses, c'est qu'il a un mot du médecin qui lui dit qu'il peut le faire. Donc bon, après, disons que là, Hamilton, il est arrivé en F1 avant qu'il se mette à vouloir appliquer plus fermement cette règle sur les piercings. Donc il y a quand même ça qui joue.
Ouais, alors la seule chose qui me gêne un petit peu, admettons qu'on lui ait dit il y a un risque de défiguration si on enlève le piercing une seule fois, là j'aurais compris, parce qu'effectivement, il ne peut pas vraiment faire autrement. Là, la défiguration, c'est la répétition du geste de l'enlever et de le remettre. Voilà, bon, c'est un détail. C'est bon, c'est peut-être pas la peine de passer énormément de temps là-dessus, comme tu le dis, c'est pas non plus hyper grave, mais bon. Voilà, c'est juste un petit peu. Bon, c'est dommage, quoi.
Disons que je me contenterai du fait qu'ils disent OK, t'as un mot du médecin.
Ouais.
Et que les autres doivent amener un mot du médecin, bon, bah voilà.
On va avoir 22 médecins très talentueux, 20 médecins très talentueux sur la grille.
Ah, bah c'est ça la F1.
Ouais. Passons à la suite, messieurs. Une autre nouvelle qui nous est parvenue, c'est le fait qu'on a enfin l'information de la première course pendant laquelle sera appliqué le format des qualifications revisitées, le fameux RQF dont nous avions déjà expliqué le contenu lors de notre épisode précédent. La première occurrence de ce format de qualification, ce sera à Imola. Voilà, voilà. Je vous renvoie à l'épisode précédent si vous voulez savoir ce que c'est que ce format de qualification. Et dernière nouvelle donc, que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la mise à jour de, du règlement en ce qui concerne le franchissement de la ligne de sortie des stands. C'était en réaction notamment à ce qui s'était passé à Monaco lorsque Verstappen et, il me semble, Perez avaient caressé la ligne de sortie des stands à Monaco. La sortie des stands et la piste sont assez étroites à cet endroit-là. Et il n'avait pas été sanctionné, ce qui avait surpris, parce que dans des cas très similaires auparavant, des pilotes avaient été sanctionnés. Eh bien, la règle a été mise à jour. Dorénavant, il est permis de rouler sur la ligne tant que l'extérieur du pneu ne dépasse pas l'extérieur de la ligne. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Moi, ça ressemble fort à une petite mise à jour du règlement pour justifier le fait qu'ils n'ont pas porté de sanctions l'an dernier.
Ouais, après c'est une clarification. Après, une clarification, c'est toujours à double tranchant, quoi. Donc,
juste voilà, là. Quoi.
C'est juste. Ouais, c'était le problème du franchissement. Est-ce que la ligne fait partie de la limite des sorties des stands, ou est-ce que c'est le côté droit ou le côté gauche de la ligne qui fait là? Bon, ils ont décidé que la ligne faisait partie de la sortie des stands et que pour la franchir, il fallait dépasser complètement cette ligne. Ce qu'a priori n'avait pas fait Verstappen et Perez à Monaco les dernières.
Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour sur ce point, messieurs? Eh bien, je vais prendre ça pour un oui. Et donc, nous allons passer à la rubrique suivante de notre émission. Et on va enfin commencer à parler du Grand Prix de Bahreïn. Et je vais tout simplement vous interroger, messieurs, sur ce que vous avez pensé de ce week-end de Grand Prix, des essais, des qualifications et de la course.
Eh ben, c'était un Grand Prix pas si mal, un Grand Prix dans la moyenne, avec des... Bah, il était intéressant, c'est vrai que ça, au final, ça manquait quand même depuis quelques mois, donc intéressant de les revoir rouler, et intéressant de revoir les nouvelles... position de chaque écurie, même s'il n'y a pas non plus tellement de changements.
Ouais, bah c'est vrai qu'il y a cet aspect reprise. Quand on est en pause hivernale, qu'on fait un peu le point sur les actus, sur les problèmes qu'il y a eu, on a tendance à se dire, ouais, ça va être une domination, ouais, de toute façon, c'est un sport pourri, il y a plein de tricheurs, la FIA fait n'importe quoi, Et puis au final, moi je suis là, voilà, c'était à 16h devant la course, enfin 15h59, t'as le cœur qui bat vite et puis t'es content que ça reprenne. Donc il y a déjà cet effet-là qui joue forcément sur l'appréciation de la course. Après, sur la course en elle-même, bah, c'est comme tout changement de saison, il y a les cartes qui sont un peu rebattues. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à la fin de saison dernière. On a un peu l'impression que toutes les cartes, sauf celle de Red Bull, ont été rebattues. Ce qui fait que la course est quand même assez intéressante parce qu'on a des gens à des positions qui étaient inhabituelles par rapport à l'année dernière. Et en ça, c'est plutôt positif. Il y a quand même une vraie coupure par rapport à l'année dernière.
Je suis assez d'accord avec ce point-là, Wiku. C'est un peu l'impression que j'ai eue aussi. Alors déjà, j'étais très, très hype pendant les qualifs parce que je voulais absolument avoir des réponses à toutes les interrogations qu'on avait eues pendant les essais de pré-saison et les essais libres même. Qui avait mis de gros sacs de sable sur la voiture qu'ils étaient prêts à enlever? Qui avait du rythme? Qui n'en avait pas? Tout ça pour arriver à un ordre qui finalement était assez logique et même bien rangé en fonction des écuries. Et la course représente bien ce que tu disais, à savoir qu'il y a eu une belle redistribution pour tout le monde, sauf pour Red Bull, qui joue dans une catégorie au-dessus. Donc, il n'y a pas eu de lutte pour la victoire, mais il y a eu de la lutte pas très loin derrière, et ouais, ça a totalement fait le sel de cette course, qui pour moi était vachement intéressante à suivre pour cette raison-là.
Je vous suivrai exactement pareil, hein, L'attrait principal, il y a toujours le fait que ce soit le premier Grand Prix, mais effectivement, on voulait avoir des réponses sur les essais, les premières rumeurs de ce qu'on avait pu voir pendant les essais hivernaux à Bahreïn. Par contre, sur le côté rabattage de cartes, je trouve pas tant que ça, mais on pourra en discuter, je pense, après dans la suite de l'émission. À part une écurie pour moi qui a fait vraiment un bon au classement, y a pas, c'est pas tant si bouleversé que ça. On a toujours un midfield qui est assez serré, effectivement, peut-être encore plus serré cette année, ce qui fait que dès qu'il y a un petit truc qui va pas ou une baisse de performance, tout de suite ils vont perdre plus de place que peut-être qu'ils ne pouvaient perdre l'année dernière, mais le peloton est toujours quand même assez compact.
Je vais teaser un petit peu la suite de l'émission, mais moi je vois déjà deux écuries qui ont fait très gros progrès, et une qui s'est plantée, bon bah ça fait déjà pas mal hein, pour rebattre les cartes. Le reste c'est un petit peu mélangé, comme tu disais, c'est très serré, et du coup on risque d'avoir des courses qui ne se ressemblent pas au niveau des arrivées, disons à partir de la 6, 7, allez, 8e place, jusqu'à quasiment la fin. Du fait de ce peloton qui est très resserré, et même à l'intérieur de ce peloton, il y a quand même une hiérarchie et qui a été pas mal chamboulée, même si c'est pas complètement redistribué.
Pour insister sur ce que tu dis par rapport au peloton resserré, si je fais pas d'erreur, alors la Q1, bon, les top teams n'ont probablement pas roulé à fond, hein. Enfin, de toute façon on le voit avec les sessions d'après, mais sur la Q1, de la P1 à la P20, si je dis pas de bêtises, il y a moins d'une seconde deux.
Ouais, c'est oui, même... tu fais bien de dire qu'en Q1, ils n'ont pas tous mis les watts, hein, parce que au final, il y a quand même 3 secondes d'écart à la fin, si on prend le meilleur temps de Verstappen et celui de Piastri. Donc, oui, il y a quand même un écart.
Il y a une amélioration d'une seconde deux, en fait, entre le meilleur de la Q1 et le meilleur de la Q3.
Il y a donc plus d'écart
il
entre,
qu'il y a...
Il y a plus ouais, d'écart entre Verstappen et Verstappen qu'entre Verstappen et Tsunoda, quoi.
Et pour accentuer sur la Q1, bon, déjà on a eu le Sargent qui est sorti en Q1 en étant égalité avec le temps de la P15. Et de la P15 à la P20, donc la dead zone, il n'y a que 5 dixièmes.
Ouais, ça c'est. C'est vrai que c'est pas énorme pour. Pour une Q1, surtout sur un premier Grand Prix en fait, où on pourrait imaginer qu'il y ait des gens qui soient davantage plantés que d'autres, et finalement, alors on n'est plus au début d'une réglementation, mais on est au début de la saison, il y a eu des petits changements, notamment sur la hauteur, hauteur minimale de la voiture, etc. Et le résultat, c'est déjà des voitures avec des performances assez proches dans le peloton.
Et pour enchérir là-dessus, la Q1, c'est 5 écuries différentes qui sortent. Et la Q2, c'est 4 écuries. Donc il y a vraiment eu... Enfin, les pilotes ont vraiment fait la différence sur cette séance de qualif.
Oui, et les sorties de piste aussi pour certains. Mais bon, on en rediscute.
J'attribue ça aux pilotes.
C'est effectivement les pilotes qui font la différence aussi dans ces cas-là. Ça a beaucoup moins été le cas dans la course. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs de pilotage de mémoire. Il y a eu des abandons sur problèmes mécaniques, électroniques, etc. Mais... J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu de pilote qui ait fait de grosses bêtises.
Enfin, il y a eu pas mal de blocages. Il y a eu pas mal de blocages. Voilà. Je crois que c'est Hülkenberg qui a pris 5 secondes de pénalité parce qu'il respectait pas les limites de la piste.
Il n'y a pas eu de sortie ou de crash, quoi. C'est ça que je veux dire.
Non.
Il aurait pu, mais.
On n'est pas passé forcément très loin.
On en reparlera, je pense, mais il y a eu des pilotes qui ont multiplié un peu les touchettes, même.
Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur votre feeling sur le week-end de course?
Bon, ça nécessite juste de voir la suite, mais c'est déjà intéressant. Après, c'est sûr que si la lutte pour la tête est aussi peu passionnante toute la saison, ça risque d'être difficile quand même.
Ouais, on va peut-être se retrouver un de ces... Bon, faut voir parce que c'est Bahreïn et que c'est la première, hein, mais si c'est annonciateur du reste de la saison, ça va faire partie de ces saisons, ça va être la P3 qui va être intéressante. Peut-être la P2.
Ça me rappelle un petit peu ce que j'ai mis dans ma capsule temporelle, ça. Genre, je vais pas dire que j'espère que c'est ce qui va se passer, mais...
Effectivement, le seul problème que je vois, après c'est pareil, c'est le premier Grand Prix de la saison, mais que s'il y a domination de cette année de Red Bull par rapport à la dernière domination qu'on a eue avec Mercedes, chez Mercedes il y avait quand même un petit peu de bataille, même si bon, c'était un peu, notamment avec Bottas, c'était moins flagrant qu'avec Rosberg, que là on sait tout de suite que chez Red Bull, s'il y a domination, bah, il n'y aura pas de bataille dans l'équipe, quoi. Ça sera Verstappen et puis c'est tout. Donc c'est le problème qu'on peut avoir s'il y a une domination Red Bull cette année, quoi.
Est-ce qu'on va trouver que la saison va être suffisamment intéressante si il faut suivre la 3e, 4e place du championnat pilote ou la 3e, 4e place du championnat constructeur alors que c'est plié pour la victoire?
Après, là-dessus, justement, j'allais dire, moi, la saison 2020, c'est une saison où Mercedes est loin devant les autres. Bottas, il est au stade de sa carrière où il est brisé. Enfin, il n'y arrive plus, il n'est plus du tout au niveau. Il n'est pas dégueulasse encore comme en 2021, mais il n'est clairement plus une menace du tout pour Hamilton. Et pourtant, la saison est assez mémorable par plusieurs aspects. Il y a des courses dont on se souviendra encore un petit moment. Pour moi, c'est pas, même s'il y a une domination d'un pilote d'une voiture, ça n'empêchera pas la saison d'être intéressante.
Juste pour peut-être pour terminer un petit peu, on a vu effectivement, il n'y a pas eu de bataille pour la première place, mais il y a eu de la course, il y a eu de la compétition derrière. Moi, ça peut me suffire. Alors, ça a suffi à rendre la course intéressante pour moi, donc je préférerais bien évidemment avoir une lutte pour le championnat. Mais je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant tout de même si ça reste suffisamment serré. Et bon, je préférerais bien évidemment que la lutte aille jusqu'à la première place. Même si pas optimiste. Bon, eh bien messieurs, je pense qu'on en a fini avec ce point. On va passer à la suite et je vais rendre la main à Wiku pour nous parler de ce qui va se passer dans la rubrique suivante.
Merci Kazlu. Eh bien, on va attaquer un peu le cœur de l'émission avec la rubrique qu'on peut intituler la rubrique James Braddock, parce que chez la touche F1, on met les points où on veut et c'est souvent dans la gueule. Donc le principe de cette section, c'est que toute l'équipe de la touche F1, donc Fab, Kazlu, McLovin, Shinny, Spiger et moi-même, avons à disposition 5 points et nous avons la possibilité d'attribuer ces points positivement ou négativement à qui ou à ce que l'on veut par rapport au Grand Prix. Donc ce qu'on veut, ça peut être un pilote, ça peut être une écurie ou ça peut être autre chose, une voiture, les commissaires, le ciel, etc. Et du coup, on a, je le disais, 5 points à disposition qu'on peut distribuer entre des points des négatifs ou des positifs. Typiquement, Kazlu, qui est quelqu'un de positif, aura distribué 4 points positifs et 1 négatif. Moi, à l'inverse, étant plutôt négatif, râleur par nature, j'en aurais donné 3 négatifs, 3 mauvais points et un seul bon point. On cumule un peu tous ces résultats, on compte qui a des bons points, qui a des mauvais points, et ça va nous faire un peu nos sujets de discussion pour le cœur de cette émission. Et pour citer les grands penseurs, on se complaît dans la médiocrité, je vous propose de commencer par les mauvais points. Et au tableau des mauvais points, pour ce week-end de course, on a un grand vainqueur, c'est McLaren, qui a reçu 4 points négatifs. Donc un point de Fab, McLovin, Shinny et moi-même. Messieurs, le week-end de McLaren?
Eh ben, entre panne et panne. C'était une longue agonie pour les deux McLaren, tout le Grand Prix. Et même en sortant du Grand Prix, au final, on ne sait pas vraiment le rythme d'une McLaren, parce que Norris, vu qu'il a fait des courses sprint de 12 tours en continu, c'est un peu dur de savoir même où ils sont sur les rythmes. Et c'est vrai que l'abandon de Piastri était quand même assez exceptionnel, où ils ont changé le volant avec le reboot du volant, avec le petit McLaren écrit.
Ah non, c'est fantastique, ça.
C'était un grand moment du GP, je trouve. Malheureusement pour lui, hein, mais bon. Je pense que son premier GP, il l'a pas super bien vécu.
pour revenir sur le cas de Norris, on avait vu un petit peu, on a appris plus tard, mais on avait un petit peu vu ce qui s'était passé, que sa voiture avait une fuite de pression pneumatique, et donc il fallait absolument s'arrêter tous les 10-11 tours pour remettre de l'air dans le circuit pneumatique de la voiture. C'est pour ça qu'il y avait un mécano qui était avec un tuyau sur le ponton de la McLaren. Et du coup, c'est pour ça que les arrêts... Voilà, il a fait 5 ou 6 arrêts, il a passé tous ses trains de pneus, c'est le seul qui a mis des médiums. Et du coup, forcément, il n'y avait pas de course à faire, c'était pas possible. Donc ils ont utilisé cette course pour faire des essais supplémentaires, simplement. Donc sa course était terminée très tôt à Norris.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est pas, pour Piastri, au moins annonciateur du fait que ça sera une saison sans pression?
Oh, elle est bonne celle-là, belle blague. mais bon. Est-ce que c'est une saison sans pression? C'est surtout une saison à pression pour Norris, surtout, je pense. Parce que Norris, il a quand même le couteau entre les dents et ça commence quand même le plus mal possible. Donc c'est sûr que Piastri, il est un peu plus calme, mais bon, je suis pas sûr que ça soit sans pression non plus.
Ouais, Piastri. C'est dommage en fait parce que on repense quand même à l'année dernière où McLaren est prêt à payer à peu près 20 millions pour que Ricciardo ne conduise pas la voiture de cette année. Et bon, c'est que la première course, hein, mais si le reste du début de saison est de cet acabit, on a un peu envie de se dire tout ça pour ça.
Sans regret pour Ricciardo.
Ah, Ricciardo, il est content d'être payé 20 millions pour pas la conduire, je crois que là...
Ouais, bah après même le début du Grand Prix, il était pas terrible parce que Norris il commence quand même assez haut et il dégringole petit à petit. Alors c'est peut-être déjà les problèmes qui commencent pour lui au niveau mécanique, quoi. Mais il dégringole petit à petit et Piastri il est jamais sorti de sa P16. Bon, après il abandonne assez vite dès le tour 15 ou 16, j'ai plus le chiffre en tête, mais dans le premier tiers, quoi. Donc c'est sûr que...
Il me semble que les 14e pilotes...
tour, si je dis pas de bêtises.
Il me semble que les pilotes se sont déjà plaints pendant les essais de la traînée très forte de la McLaren. C'est sûr que sur les très grandes lignes droites du circuit de Sakhir, ça n'aide pas du tout. Une voiture avec de la traînée, c'est pas le circuit sur lequel elle va exceller. On peut espérer pour eux qu'il y a d'autres circuits sur lesquels ça va mieux se passer. On peut leur souhaiter que McLaren redresse la barre comme elle l'a fait l'an dernier, mais bon, ça part comme l'an dernier justement, ce qui était vraiment pas terrible.
Ça part comme l'an dernier, même plus bas que l'an dernier, j'ai l'impression.
La différence de l'an dernier, je crois que les problèmes étaient assez ciblés. Ils avaient des problèmes de frein.
Ouais, ils avaient des problèmes de température.
Que
de
là,
frein,
c'est un peu toute la voiture qui est pas ouf, quoi. Après, on a quand même Norris qui fait une bonne qualif, quoi. Donc, bon, est-ce que c'est encore une fois Norris qui embellit au maximum la McLaren ou? Ou est-ce que c'est la réelle performance maxi de la McLaren? Que effectivement, Piastri, pour l'instant, on va lui laisser le temps, surtout qu'une voiture qui marche pas très bien, de savoir son niveau en F1.
Oui, c'est vrai que le schéma, une McLaren qui abandonne au Q1 et l'autre qui a du mal à passer en Q3, qui reste bloqué en Q2, c'était déjà un peu le schéma de l'année dernière, mais Ricciardo était à côté de ses pompes, malheureusement. Là, Piastri, bon, c'est... va falloir le laisser monter un peu en vitesse. C'est vrai qu'il a un CV très intéressant, vu ses résultats dans les formules de promotion. Mais, bon, faut quand même sauter dans le bain. Et puis là, la voiture, elle est ni rapide, ni complètement fiable. Donc,
Et ni elle a du bon appui, hein, parce que même Norris, en qualif, son secteur 2, il est quand même dans les vraiment pas terribles... Donc, elle a pas de vitesse, pas trop de vitesse, pas trop d'appui. Enfin, c'est pas la meilleure, quoi. Ils partent de plus loin, c'est sûr.
Ok, bien d'autres choses à ajouter sur ce désastre McLaren pour cette première course.
Juste, on verra la prochaine fois.
Félicitations pour être les tout premiers à truster la dernière place dans notre classement.
Ah bah oui, oui. Enfin, si. Ils sont les premiers de notre classement négatif.
Voilà, on va pas recommencer. On peut leur laisser ça. Oui. Ils sont les premiers de la grille inversée de... Oh, bon, bref.
Ross Brown, si tu nous écoutes. Bon alors, on a eu un peu le running gag des arrêts McLaren de Norris et des problèmes McLaren sur le week-end. L'autre personne qui a reçu pas mal de points négatifs, c'est Ocon. Et lui aussi, c'était un peu un spécialiste du running gag ce dimanche. Est-ce que l'un de vous veut faire un peu l'anthologie de ce qui est arrivé à Esteban Ocon avec ses pénalités?
On va dire qu'il avait des problèmes aux yeux au démarrage, du coup il s'est garé sur la place au lieu de devant, enfin derrière plutôt. Du coup déjà il se prend une pénalité dès le départ quoi, grosso modo. Et puis si je me rappelle bien, il fait son arrêt au stand assez tôt. Et lors de l'arrêt, il doit faire les 5 secondes de pénalité. Mais un de ses mécanos décide de quasi directement mettre les mains sur l'aileron parce qu'en plus il avait touché lors du premier tour. Et du coup, je crois la pénalité, elle doit faire 5 secondes et il y a un de ses mécanos du coup qui commence à bricoler dessus dès 4 secondes 6. Et
Oui, c'est ça.
en plus de ça, dans son malheur, il a dépassé de 0,1 km/h la limite de vitesse dans le pit, donc re-pénalité. Donc ça lui fait un total en tout, je crois que c'est 5 secondes de départ plus 10 plus 5. Donc ça fait un beau cumul. Même
Ouais,
lui
c'est
est
ça.
blasé à la radio, quoi, mais oui.
En plus. Comme tu le dis, il y a tout qui est tombé, puis il y a eu un petit effet running gag parce que à la télé, on a vu après qu'il avait été mal positionné au départ, on a vu la pénalité de 5 secondes, on l'a vu faire la pénalité, il est ressorti, puis quelques tours après on se dit, ah ben en fait la pénalité était mal faite, il est sous enquête, il va se reprendre une autre pénalité, et encore quelques minutes après on a le message qui nous dit, ah il allait trop vite dans les stands en fait, donc il va aussi se prendre une pénalité. Donc il y avait un petit ressenti running gag quoi sur
Et
ses
puis
ennuis.
du coup après il jouait la dernière place avec Norris grosso modo, donc ils ont décidé de rentrer au stand et de se préserver pour la prochaine course quoi. Mais bon.
Ce qui était peut-être
Ouais,
une
une
sage
course.
décision. Je ne sais pas à quel point la fiabilité va être un problème durant la saison, en particulier pour Alpine, mais l'an dernier c'était pas ça, donc. N'ayant rien à jouer, c'était peut-être pas idiot de pas finir la course.
Ouais, il y avait plus grand-chose à espérer. On en parlera peut-être après. Gasly est remonté, donc s'il y avait une safety car ou quoi que ce soit, il aurait peut-être pu remonter un peu, mais Gasly est pas non plus remonté très vite, donc ça aurait été difficile. Juste un petit mot parce que c'est vrai qu'on a eu cette impression lorsqu'on regarde l'arrêt d'Ocon, celui qui est incriminé, donc avec la pénalité mal respectée. On a l'impression qu'il y a des mécanos qui s'appuient sur la voiture. En re-regardant un peu en détail, en regardant la décision des commissaires, on se rend compte que non, c'était plutôt une vue d'optique et qu'ils sont pas bêtes non plus quoi. Mais ils ont raté leur chronométrage et Zaffnauer a expliqué que. Alors il a dit que c'était un bug. Bon, à voir. En gros, il a expliqué que pour la prochaine fois, ils allaient rajouter 4-5 dixièmes à leur chronomètre.
C'est comme pour leur rythme super bon de début de saison théorique. Voilà. Mais là, il faudrait l'enlever les 4-5 dixièmes pour leur rythme. Mais
Peut-être qu'ils ont
bon.
utilisé le même chronomètre pour l'arrêt au stand d'Ocon et pour leur chrono en saison. Ils se sont dit, c'est bon, on va être super bon.
Ben oui, alors on peut parler d'Alpine parce que Alpine rejoint le groupe des personnes qui ont reçu un point négatif dans notre rubrique James Braddock. Un ressenti global sur Alpine. Enfin, je sais pas vous, moi on en avait parlé à la pré-saison. Alpine avait l'air très confiant en eux. Et au final, ils seraient peut-être un peu trompés. Ils étaient peut-être un peu trop confiants.
Pour moi, il reste toujours le meilleur des autres, sauf que ben dans les meilleurs, il y a une écurie de plus maintenant, quoi.
Ouais, c'est moi qui leur ai mis un point négatif parce que simplement, ils se sont encore pris pour un top team. Ils ont fait des essais sans passer les pneus C4 et C5 qui étaient les plus tendres, sans faire de run de performance. ils ont fait leurs essais libres, où ils n'ont pas vraiment fait de gros temps non plus. On a l'impression qu'ils ont tout fait avec des sacs de sable, tout en faisant des déclarations hyper positives, en disant « oui, on est vachement content de notre rythme, on s'est concentré sur autre chose, mais on n'est pas inquiet, pour nous tout fonctionne bien ». Ça fait vraiment la top team qui met des sacs de sable et qui veut pas dévoiler son jeu, mais qui fait genre « vous allez voir en qualification, ça va être incroyable, on va sortir le grand jeu ». Résultat au qualif, c'était vraiment pas terrible. On a Ocon qui a accroché une Q3 de justesse et Gasly qui a complètement raté ses qualifs. Et en course, alors attention, la voiture est pas mauvaise, hein, parce que Gasly a fait une très belle course, mais c'est clairement pas au niveau de ce qu'on nous laissait entendre. Et je pense que Alpine a encore perdu une occasion de ne pas faire le malin, si vous me suivez.
Après, c'est dur à qualifier parce que. Les deux pilotes sont tirés une balle dans le pied à un moment ou à un autre, quoi. Ocon pendant la course et Gasly avant, quoi. Enfin, pour les qualifs. Donc c'est sûr que dans les deux cas, fallait remonter tout le peloton, quoi. Gasly y arrive, donc la voiture, elle est quand même pas si horrible que ça. C'est juste que, bon, on peut voir, quoi.
Mais non, elle est pas horrible, mais elle est pas... Elle... Pour l'instant, elle n'a pas montré qu'elle était au niveau des ambitions de l'écurie, qui était de s'extraire du milieu de plateau.
Après, ouais, faudra voir. Effectivement, en rythme de qualif, ça n'a pas l'air d'être si dingue que ça. En rythme de course, quand on regarde les chronos, ils n'ont pas l'air d'être très loin des Mercedes. Le problème, c'est que ces Mercedes est un peu à la ramasse, donc... Si leur volonté c'était de se rapprocher de Mercedes, ben, ils ont peut-être arrivé, mais le problème c'est que Mercedes, par rapport à la tête, a reculé. Oui, et puis il y a une autre écurie qui est passée devant. Donc du coup, ils se rapprochent, mais il y a d'autres écuries qui leur passent devant. Du coup, la quatrième place, ça va être compliqué de la conserver cette année.
La formulation très presque politicienne de Chény qui revient à dire que oui, on est toujours le meilleur des autres, mais les autres, ils sont moins nombreux. C'est peut-être un peu le ressenti que j'ai. Et ouais, enfin, faudra voir comment ça se confirme sur les prochaines courses, mais pour le moment, c'est un petit échec.
C'est dommage parce qu'ils ne l'ont pas formulé comme ça dans leurs objectifs. S'ils avaient dit « notre objectif, c'est de s'extraire du milieu de plateau et de se rapprocher des top teams », eh bien, avec la définition de Chény, ça aurait pu marcher, parce qu'effectivement, s'ils sont pas trop loin de Mercedes, mais que on considère que Mercedes, Aston Martin, Red Bull et Ferrari sont les 4 top teams, ok. Sauf qu'ils ont dit précisément, on veut conserver la 4e place en se rapprochant du 3e. Et là, ça semble mal engagé.
Ouais, à voir, hein, parce que ça peut être aussi, peut-être que Bahreïn, ça serait pas la première fois que ça nous induit en erreur sur une saison. Peut-être qu'eux aussi vont être capables de développer et d'amener des choses. Il me semble qu'il était question qu'ils aient des innovations assez agressives en début de saison, Alpine. À voir ce que ça va donner.
C'est sûr qu'ils ont montré l'an dernier qu'ils étaient capables de le faire. Alors, on les attend au tournant.
Très bien. On a d'autres points négatifs. Alors c'est Spager, tu nous as noté le moteur de Leclerc et tu nous as donné aussi un point négatif à Sainz. En gros, chez Ferrari, c'est ce qui n'allait pas trop ce week-end, c'est tout ce qui n'était pas Charles Leclerc.
Bah, c'est un peu la déception du tifosi là, qui transparaît. Hein. Bah, effectivement, j'ai déjà parlé de Sainz qui avait l'air d'être très loin du rythme de Leclerc. Alors, est-ce que c'est le fait que Leclerc avait un pneu un soft neuf en début de course qui trompe un peu l'écart qu'il y a eu au départ. Et puis le moteur, on pensait suivant les déclarations que les problèmes de fiabilité étaient enfin derrière. Et là, non seulement il change des éléments avant entre la qualif et la course, et malgré ça, il y a eu l'abandon, problème moteur, quoi. Bon, il pouvait de toute façon pas aller jouer la victoire, mais c'est dommage de louper. C'est lui-même qui le dit à la fin de course, quoi. C'est quand on peut pas se battre pour la victoire qu'il faut marquer le plus de points possible. parce qu'on ne sait pas comment ce qui peut se passer après dans le cours de la saison. Et bah là, ça fait si des fois il doit y avoir bagarre au titre, bah, ça fait déjà 25-0 dans les dents, quoi. Donc c'est extrêmement dommage, quoi.
Ouais, c'est une occasion de damage control raté.
Exactement.
De toute façon, Leclerc, ça a bien commencé dès les qualifs où la voiture elle a commencé à tomber en morceaux dès son premier tour rapide en Q1.
Et pour info, sur le rythme, Sainz, oui, il était plus lent pendant tout le GP. Il est juste revenu parce que Leclerc, ils ont fait un peu durer les hards. Et je pense que ça n'a pas été une grande réussite parce qu'il a perdu beaucoup de temps à ce moment-là. Mais à part ça, oui, Sainz était toujours à 2-3 dixièmes d'écart.
Ça, on l'a vu dès les qualifs, hein, parce qu'au qualif, Leclerc il fait qu'un tour, parce que le deuxième il a pas l'occasion de le faire à cause d'un souci technique d'ailleurs. Et Sainz, malgré son deuxième tour et les Red Bull, quand elles ont tourné un deuxième tour, elles ont pas mal amélioré. Lui, il a pas réussi à se rapprocher de Leclerc. Donc, il n'a pas réussi à lui passer devant.
Mais non, voyons, la deuxième. La deuxième tentative de Leclerc, c'était pour économiser un train de pneus, on t'a dit.
Ah oui. Si je vais être.
Mais il les a peut-être donnés à Norris, du coup.
Bon, notre petit mot sur Ferrari, qui entame pas la saison de la meilleure des manières. L'écurie qui s'espérait un peu challengeuse.
Bah, ce qui n'est pas rassurant non plus, c'est que... Alors, du coup, là, c'est un circuit un peu particulier qui bouffe les pneus, mais ils avaient l'air d'avoir des problèmes en fin de relais avec les pneus, justement, même avec les hards, à les tenir en vie plus que les... Enfin, ils galéraient plus que les autres, quoi. Alors, ça sera pas tous les Grands Prix qui seront comme ça, mais... Même à la fin, au final, les Aston et même un peu les Mercedes, elles revenaient dessus, quoi. Donc, c'est quand même pas hyper rassurant, je crois.
Petite précision sur Leclerc qui risque d'avoir des problèmes très rapidement. Leclerc a changé sa batterie entre la qualification et la course parce qu'il y avait un doute. Et la batterie a lâché pendant son incident mécanique. Or, les pilotes sont autorisés à avoir deux batteries sur tout le long de la saison. Là, il en a cramé une, et l'autre, il y a des doutes. Donc il pourrait en un seul Grand Prix. Donc c'est déjà très très mal parti sur le sujet des pannes mécaniques pour Leclerc. Il va falloir régler le problème très vite pour Ferrari, qui s'en étonne parce que sur les 6 000-7 000 km d'essais qu'ils ont fait, ils ont eu zéro problème de cette nature. Donc ça leur tombe un petit peu sur la tête. Il y a du boulot chez Ferrari.
Oui, parce que même au-delà de la batterie, de façon générale, ils n'ont pas trop eu de soucis pendant les essais, ni les essais libres, ni les essais de pré-saison, donc compliqué. Tu dois avoir un peu les boules quand tu es dans le pit Ferrari là, et que t'as pas eu de soucis pendant les essais, et que tu poses la bagnole en Q1 et elle tombe en morceaux et elle tombe en panne en course.
Ah, ça, il va falloir.
Si nous parlons plus de ça à Spager, il va pleurer bientôt.
C'est reste lui qui a mis des points négatifs.
Ouais. Non, mais je rajouterais juste un truc, c'est que bah, un peu à la manière de les dernières, du coup, c'est Sainz qui marque plus de points que Leclerc, alors que c'est Sainz le plus mauvais des deux, quoi. Donc bon, je fais confiance à Vasseur pour se rendre compte du talent de ces deux pilotes quand il faudra peut-être décider de choses dans la saison si ça se passe mieux, quoi.
Ah bah Sainz est devant, c'est le pilote numéro 1 maintenant.
Ouais. Binotto n'est plus là. Donc.
Allez, une belle victoire à Silverstone. Bon. Messieurs, ont également reçu un point négatif, Mercedes et les infographies. Bon, on va aller très rapidement. Moi, j'ai mis un point négatif aux infographies parce que à plusieurs reprises dans la course, on avait des pilotes qui n'avaient pas de pneus. On avait des pilotes qui n'avaient pas les bons pneus sur la colonne des temps.
Mmh. C'est un petit... avec les hards.
Ouais, voilà. Pendant une bonne partie de la course, je me suis dit, oh, bah, le pauvre Cazelu, il est gâteux, il a vu des tendres alors que c'est des hards. Alors que non, le brave Cazelu avait raison.
Merci.
Donc c'était. Oui, non, mais je. Voilà. Mais à coup de pas. Mais voilà, c'était un peu dommage. On va dire que c'est de la mise en route et que ça ira mieux à la prochaine. Au moins F1 TV marchait, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les saisons avant. Et ouais, pouce rouge pour les photos qui sont vraiment très retouchées, très retravaillées des pilotes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Ah oui.
Alonso, ils ont voulu faire comme s'il avait 20 ans. Je pense que c'est même, ça sert même pas à servir l'histoire du personnage que de faire croire qu'il est jeune, je trouve. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais pour
c'est
moi, les cheveux de Verstappen sur la photo, ils sont faux. Ils ont pris Verstappen, ils ont dit « Ah putain, sa coupe de cheveux est dégueulasse. Vas-y, découpe-moi un truc sur fond noir, là, ça fera des cheveux. J'ai pas d'autre explication. »
Je pense que les effets sont tellement ratés qu'on a l'impression qu'il y a des retouches de plus que ça. C'est juste dégueulasse, quoi. Je comprends pas. Mais c'était déjà le cas l'an dernier, hein. Mais les photos sont moches alors qu'elles ont été retouchées pour que ce soit mieux. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Qu'est-ce qu'ils foutent?
Je pense qu'ils ont un objectif de viser plus molle que ce que faisait la NASCAR.
C'est pour viser le marché américain. D'accord. Ok, là j'ai compris.
Et l'autre sujet, Mercedes, Spider, en une phrase. Toi qui as mis un point.
Peut-être la plus grosse écurie de ces 10 dernières années qui n'y arrive plus du tout.
Et qui a annoncé qu'ils arrêtaient avec le modèle sans ponton, si j'ai bien compris.
Oui, alors Wolf l'avait déjà annoncé l'an dernier qu'ils allaient foutre le concept à la poubelle et ils sont revenus avec en début de saison, donc je me méfie de ce que dit Wolf personnellement.
Ouais, bon, on verra, mais en tout cas, ça en reparle, quoi. Ils avaient déjà annoncé en début de saison qu'ils le viraient, donc on verra.
Ils avaient déjà été ambigus même pendant la présentation de la voiture en disant qu'il y aurait peut-être des gros changements, etc. Bon, bah, qui sait, peut-être que c'est la capsule de Fab qui va remporter le gros lot.
Parce que pour conserver leur concept qu'ils avaient réussi tant bien que mal à développer et à en réduire le marsouinage, ils l'ont conservé, mais ça fonctionne toujours pas, quoi. Ils sont encore plus loin que l'année dernière, malgré leur développement. Le problème c'est qu'il faut qu'ils changent, mais est-ce qu'ils arriveront à rattraper malgré ça? Pas sûr, quoi.
Quand tu changes, tu repars de plus loin, donc tout cas tu repars pas devant, quoi.
Ouais, c'est bizarre. Ouais,
c'est pour une pensée pour Russell, hein, qui se faisait une joie de quitter la Williams pour aller récolter victoire sur victoire. Non, il faudra attendre encore un peu.
Je serais Mercedes, je vire Russell, hein, parce que c'est lui qui a la Schumann, en fait.
Oui, exactement.
On reprend Bottas, les gars.
Bah, écoute.
Il était pas si loin au classement.
Hein. C'est vrai que je comprends pas bien la stratégie Mercedes qui dit, voilà, je comprenais qu'ils conservent leur concept pour essayer de le pousser plus loin, mais qu'ils annoncent, non, mais on a autre chose dans les tuyaux, on va changer. C'est étrange, je m'attends pas à une solution... complètement révolutionnaire. Enfin, je m'attends pas à des pontons Red Bull plus, parce que ça n'a pas de sens, tout simplement, de développer deux concepts pour une année. C'est pas du tout optimal, en particulier dans le cadre d'un budget capé, où il faut prendre un concept et s'y tenir et le faire évoluer. Tu peux pas disperser tes ressources en faisant évoluer deux concepts différents. Donc je sais pas trop. On va peut-être simplement attendre de voir à quoi ressemble la version évoluée de cette W14, et puis on verra ce que ça va donner.
Peut-être juste remettre des pontons, c'est peut-être leur libérer des contraintes qui s'obligeaient à vouloir, au niveau peut-être du refroidissement du moteur, et la disposition des éléments que là, en mettant en élargissant les pontons, ils vont peut-être être plus libres sur certains points, et pouvoir peut-être développer un peu plus sur certains autres points, et essayer de gagner de la perfo.
Parce qu'ils vont pas repartir de zéro, hein. C'est plutôt ils vont adapter un truc qui à ponton sur la voiture actuelle pour justement gagner sur des trucs qui les gênent actuellement, quoi, sur les réglages, sur tout le reste, quoi.
C'est intéressant que vous disiez ça, parce que c'était un des propos tenus par Wolf et par l'équipe, c'était de dire que le zéro ponton, c'est pas le cœur du concept de la voiture.
Ouais.
Alors, encore une fois, c'est ce que eux disent. Mais c'est plus un choix technique qui est en conséquence du concept, ce qui sous-entend que peut-être que de façon interne ou de la façon de guider le flux vers l'arrière, ils vont pas avoir tant de changements à faire pour élargir un peu leur ponton. Mais peut-être qu'aussi c'est le reste du concept qui pêche de façon générale. L'année dernière, ils expliquaient déjà que c'était pas la faute des pontons très fins. Donc c'est... Ouais. Ça serait pas Mercedes, je serais déjà en train de me dire, ouais, ils sont perdus. Mercedes, ils
Ouais.
ont tellement gagné, ils ont tellement rebondi aussi, notamment en 2021, que c'est difficile de les imaginer perdus, mais ça a l'air compliqué.
Mais c'est ça aussi, hein, faut faire attention à ne pas faire l'erreur de tout attribuer au ponton, parce que comme tu le dis, Wiku, hein, ça, le problème peut venir d'ailleurs, du fait que le concept aéro il concerne la voiture dans son ensemble, et c'est peut-être pas la partie ponton qui est gênante. On sait que le fond plat, qui n'est d'ailleurs plus plat, a une importance très élevé sur la performance globale de la voiture. Peut-être que c'est leur tunnel Venturi qui sont pas au point, qui fonctionnent pas dans ce concept, je sais pas, mais c'est pas forcément juste remettre des pontons qui va leur donner de la performance. L'argument de Spiger est valable, hein. Peut-être que simplement ça leur donne des perspectives pour le refroidissement du moteur, mais c'est pas les pontons qui vont leur donner de l'appui, quoi, c'est ça que je veux dire.
Et puis le fait ouais, d'avoir. Je pense qu'il voulait. Il voulait persévérer jusqu'au bout, attendre le premier Grand Prix pour voir si. Quand tout le monde libère la puissance, libère, enfin, se met à fond, voir à quelle distance ils étaient. Enfin, s'ils pouvaient être dans le match ou pas, s'ils continuaient à développer le concept. Et là, comme ils ont vu qu'ils étaient vraiment, vraiment largués, ils se sont dit que. On continue pas, on change. Enfin, on se libère un peu de ce concept zéro ponton pour après peut-être pour les futures années développer un concept plus ou moins similaire à ce que fait Red Bull.
Eh bien, là-dessus, moi, juste pour terminer, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Parce que Mercedes, en 2021, ils avaient fait des très mauvais essais, ils avaient vite rebondi.
Ah.
2022, ils ont mis du temps, mais ils ont redressé la pente.
Ils ont rebondi aussi en 2022.
Oui,
Beaucoup plus.
ils ont beaucoup. Et là, 2023, bon, bah, clairement, l'objectif de choper le titre, ça va être compliqué. Mais j'ai quand même hâte de voir comment ils vont répondre à leur situation. Messieurs, on peut peut-être passer à une note un peu plus positive et apporter les bons points, à moins que vous ayez
Ah.
d'autres remarques à faire. Mais je pense qu'un peu de positivité est à l'ordre du jour.
Il en
Donc
faut.
dans les points positifs, on a une équipe qui a fait une razzia. Aston Martin a reçu 3 points de la part de Kazlu, McLovin et moi-même. Alonso a reçu 2 points de la part de Chini et Spiger. L'AMR23 a reçu 1 point de la part de Fab. Et Fab a également donné un point à Stroll. Donc la razzia chez les Verts, la bonne surprise du début de saison. Globalement, que peut-on dire? Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous ressentez après ce premier Grand Prix des performances d'Aston Martin, de leur voiture et de leur pilote?
La voiture, ça a l'air d'aller quand même pas si mal, hein. Elle est, comme l'année dernière, meilleure en course qu'en qualif, on dirait, en tout cas sur ce GP, en tout cas. Et en course, en fin de session, ouais, c'était la deuxième meilleure derrière les intouchables. Et bah Alonso, il a le couteau entre les dents, il a envie de tout bouffer. Après, bon, il fait ça comme habituel, donc on verra. Quand il y aura deux trois moments un peu plus difficiles, comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un début de saison assez impressionnant.
Juste pour nuancer un petit peu, deuxième meilleur, ça, je sais pas, parce que admettons que Leclerc n'ait pas eu de problème mécanique, je doute que Alonso ait pu le rattraper, et du coup on
Il
aurait
l'aurait
eu
eu.
enfin, Leclerc devant Alonso, Sainz devant Stroll, du coup ça aurait mis Aston Martin en troisième force. Mais
Il
bon,
l'aurait jamais rattrapé, on est d'accord. Mais
voilà, Leclerc
ils
c'est...
avaient un meilleur rythme que les Ferrari en fin de course.
Ouais, voilà, alors...
Quand même.
Manifestement dû à une dégradation pneumatique bien moins importante que ce qui se passait sur les Ferrari et même sur les Mercedes, ce qui est un très bon point hein, pour l'équipe. Globalement, c'est une équipe qui a bien travaillé cet hiver, hein, ça c'est sûr. Alors déjà, ils avaient beaucoup redressé la barre l'an dernier en changeant de concept et en le faisant marcher très vite, ce qui leur avait permis de remonter en fin de saison bien plus haut que ce qu'ils n'avaient commencé. Et il démarre sur les chapeaux de roue, hein, très clairement. cette saison. Les essais étaient de bon augure, mais on se méfiait quand même un petit peu. Et finalement, bon, bah, les résultats sont là. La voiture est performante. La voiture n'use pas beaucoup les pneus. Alors, je vais te désamorcer tout de suite un truc. On a parlé de la, entre guillemets, Red Bull verte l'an dernier. Et puis, il y a tout un tas de commentaires, y compris de Marco, de Pérez, qui disent, ouais, c'est une Red Bull verte. Oui, il y avait trois Red Bull sur le podium. Faut arrêter, hein. Ils ont juste redessiné les pontons qui ressemblaient à Red Bull l'an dernier, et uniquement les pontons, même pas les entrées des pontons. Et puis cette année, c'est autre chose. Le design des pontons d'Aston Martin, c'est pas tant que ça les pontons Red Bull. Et d'ailleurs, l'équipe qui a des pontons qui ressemblent le plus à Red Bull, eh ben c'est McLaren. Et pourtant, McLaren, ils sont pas tout près de Red Bull en termes de performance. Donc, non, non, Aston Martin a fait une synthèse des solutions Red Bull et Ferrari en termes de pontons, et ils l'ont manifestement réussi. Eh bien, bah, bien joué à eux.
Après, sur les pneus, sur la gestion des pneus, Aston Martin, déjà l'année dernière, c'était une de leurs grandes forces en général. C'est d'arriver à faire des longs stints avec un rythme assez constant. Et Ferrari, c'était exactement comme ça l'année dernière. Ils avaient aussi des difficultés avec les trains de pneus à des moments qu'ils usaient assez vite. C'est sûr que Aston, là-dessus, ils ont gardé leur force et ils en ont trouvé des nouvelles. Donc, c'est sûr que ça donne. Bah, c'est sûr que là. La mission 33, Fernand, il la voit arriver, quoi.
Oui, clairement, ça, moi, c'est un truc. L'année dernière, je faisais partie de ceux qui souriaient un peu en coin en se disant, ah, Fernando, c'était le move de trop, là, le move chez Aston Martin. Mais en fait, l'année dernière, à ce moment-là, on a été un peu dans. À la mi-saison, on était un peu au stade où Aston payait encore d'avoir simplement raté le coche, en fait, d'avoir sorti une mauvaise voiture pour le début 2022. Ils ont bien de rattraper la fin 2022, comme vous le disiez. Et pour moi, là, en fait, on est passé de. Enfin, pour Alonso, on est passé d'un pilote qui, a priori, sauf miracle, ne jouerait plus la victoire, à un gars qui. Bon, faut pas s'enflammer trop vite, hein, mais qui devrait pouvoir la jouer cette saison, si le jour où Verstappen a un problème.
Si Russell a pu gagner une course l'an dernier, logiquement, Aston Martin, dans un bon jour, devrait pouvoir jouer la gagne. Peut-être que sur une ou deux courses de la saison, mais ça doit pouvoir être possible.
Alors moi, ce que je voulais souligner, c'était Alonso, quoi. Même qu'il est. Enfin, je suis pas du tout fan d'Alonso, quoi, mais il me surprend, quoi, à son âge, de pouvoir être encore autant guerrier, autant. En plus, il nous a fait des super moves, des super dépassements, quoi. Et par rapport à un Vettel l'année dernière voilà, qui était en fin de carrière, lui, il continue encore, il en veut toujours, quoi. Il est toujours aussi performant, on a l'impression qu'à ses débuts, quoi. C'est extrêmement surprenant pour un pilote.
Vettel en
C'est
fin de
vrai.
saison dernière était pas mal non plus, hein. Il a fait quelques beaux moves, quelques belles courses qui sont pas si loin de ce qu'on voit. Alors attention, la voiture est meilleure, mais qui sont pas si loin de ce qu'on voit chez Alonso finalement. Il y a peut-être un peu moins de flamme dans le Vettel de fin de saison de l'an dernier que dans l'Alonso du début de cette saison, mais ces deux-là, quand on leur donne la voiture, même s'ils sont plus tout jeunes, et bon, Alonso, cela dit, est plus vieux que Vettel, hein, mais.
Ah, ça me
Après.
surprend plus. Enfin, déjà l'année dernière chez Alpine, il en faisait aussi. Enfin, il faisait des bonnes courses quand même, Alonso. Et
Après, Alonso, c'est aussi qu'il en
c'était
fait des
plus
caisses à la radio
flagrant
et ça
qu'à Vettel,
rajoute
quoi.
quoi. Alonso, il en fait des caisses à la radio, du coup, ça rajoute aussi dans le côté spectaculaire du bonhomme, quoi.
Ah, ça.
Alors, il en fait des caisses à la radio, oui, ça je pourrais pas te contredire là-dessus. Néanmoins, alors c'est aussi un peu une attente, du coup, un peu une attente surprise pour la saison. Alonso, les années précédentes, il surnageait dans le peloton. Parce que ça reste un très bon pilote et que dans le peloton, il y a des bons pilotes, quelques très bons pilotes et des gens qui sont qui ont le niveau pour la F1 mais qui sont pas du calibre d'un ex-champion, d'un ancien champion du monde. Là, on l'a vu batailler avec Hamilton. D'ailleurs, on a eu une jolie bataille entre les deux avec. Alonso qui dépasse une première fois Hamilton et puis Hamilton qui le surprend en fait. Je sais plus, je crois que c'était au T4. et qu'il surprend à l'intérieur. Et on le voit contre-attaquer quasi immédiatement. C'est de la bataille roue contre roue, touchette. Et moi, en fait, l'attente que, enfin, la question que je me pose, il est capable de le faire face à une voiture qui est la P3, P4. Est-ce qu'il sera capable de toujours déployer ce rythme, cette énergie en continu sur une saison à la lutte pour le titre? J'imagine pas qu'Aston va jouer le titre cette année, hein, mais s'ils font une très bonne saison et qu'ils font un bon développement, peut-être que l'année prochaine, ce seront eux les challengers de Red Bull. Et est-ce qu'il est capable de faire ce que font des Verstappen, des Hamilton, un peu des Leclerc, même si Leclerc, il y a des erreurs encore, ou comme faisait Vettel avant, c'est-à-dire de passer une saison, ou lui-même avant hein, d'ailleurs, une saison de lutte acharnée aux premières places tout du long.
Je pense qu'il n'y a aucun souci, mais...
C'est vrai qu'il arrive, il va arriver un moment où il ne va plus pouvoir le faire, mais pour le moment, il a donné absolument aucun signe qu'il l'approchait d'un état où il était trop vieux pour courir.
Et cette très belle course a failli être beaucoup plus courte en réalité. Dès les premiers virages, Lance Stroll a manqué un peu le point de freinage. Et le début de course des Aston Martin a failli être une fin de course des Aston Martin.
Ah, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas un problème de Stroll, mais pour moi, c'est un peu mixé. Parce que le truc, c'est que Alonso, il veut décroiser en freinant vraiment très fort dans le virage 4. Du coup, il coupe très vite. Alors que vu que Stroll, lui, il était en attaque sur George, lui, il vise directement la corde. Bah, ça s'est vu l'année dernière, je crois que c'était aux États-Unis avec Russell et Leclerc, je crois. Et au final, bah, c'est juste que les deux, Sainz, ouais. Les deux étaient dans un move qui va pas ensemble, quoi. Donc, au bout d'un moment, oui, c'est sûr que Stroll est plus coupable, mais pour moi, c'est un peu, oui, c'est un fait de course. Voilà, quoi, c'est des choses qui arrivent, quoi.
C'était assez drôle, les réactions radio juste à la fin, où Alonso qui nous dit « Oh, j'ai été touché, ils peuvent pas faire ça, quand même !» Ouais, Fernando, on va regarder, on va regarder. Et puis, on a plus une nouvelle.
Ce que j'ai compris, justement, je crois que sur le live F1 TV, il disait que Alonso continuait à poser la question plusieurs tours après, même quasiment jusqu'à la fin, mais qu'il répondait jamais vraiment, quoi.
Ouais, sur F1 TV, ils ont précisé qu'effectivement, voilà, il avait redemandé que vraisemblablement, ils étaient restés évasifs. J'ai pas réécouté toutes les radios. Vraisemblablement, ils n'ont pas précisé qui c'était. Et du coup, je pense que le moment où il est dans la cool room à la fin, et il voit l'accident se produire et il garde un visage très neutre, je pense que c'est le moment où il a réalisé que.
Ouais. Il aurait peut-être fallu lui dire Il aurait peut-être fallu lui dire pour éviter qu'il se plaigne à la radio où justement tout le monde est au courant. Enfin bon.
Et disons que ça aurait pu être problématique s'il avait fait des tonnes, comme il a déjà fait, en mode « Ah non, mais c'est inadmissible, faut jamais faire ça, ils savent pas courir !» Parce qu'on l'a déjà vu faire ça, et là il aurait eu l'air un peu con-con.
Je regrette qu'il l'ait pas fait plus, parce qu'il en est capable.
Ouais, mais là on était la première course, la voiture marchait bien. Bon.
Ouais, il était occupé à autre chose, quoi.
C'est ça.
Mais il s'en est fallu de pas beaucoup, quoi. Il freine un centimètre plus loin, ça suffit.
C'est même déjà miraculeux que Stroll il ait aucun dégât ou quasiment aucun dégât, quoi.
Alors qu'il
y en a certains, ils ont 10 fois moins de touchés fortement et ils avaient plus d'aileron. Coucou Nico. Mais
sur les deux coups,
c'est le Brésil 2019.
Sur le contact d'Alonso sur Sainz aussi, ça touche bien et l'aileron, ouais. Il bouge pas, quoi.
Aston Martin, elle est en béton armé, quoi.
Elle est solide.
Ouais.
Alonso, c'est pareil, hein, il n'est pas passé loin d'une crevaison à l'arrière droit au virage 4. Là, sa course était terminée. Hein,
sur le sujet Aston Martin, il y a aussi Lance Stroll, du coup, donc on en a parlé là avec ce mini-accident, sans conséquence. Lance Stroll dont la présence était incertaine et qui en fait a eu des problèmes aux deux poignets. Il a été opéré du poignet gauche, si j'ai pas de bêtises, Et il avait aussi une fracture à l'orteil.
Double fracture des deux poignets, enfin, d'après ce que j'ai compris, deux fractures au poignet gauche, une au poignet droit mais qui nécessitait opération, et un doigt de pied pété, ouais. Bah, ça fait un beau chiffre pour une petite en vélo.
Ouais, bah, pour être franc avec vous, moi, pendant la course, bon, je suis pas ultra fan de Stroll, et étant donné qu'il était supposément remis de son opération au poignet et qu'en course, il avait l'air, je trouvais un peu mou par moment. Sur le coup, j'ai pas trop apprécié ça.
C'est Stroll, voyons.
Oui, non, mais voilà. Mais là, il y a un article sur Motorsport qui est paru justement, qui relate un peu les confidences de Stroll sur son état. Beau boulot quand même.
Ça me rappelle, enfin, du coup, il a été opéré par quelqu'un qui fait de la MotoGP. Ben, c'est typiquement ce que font tous les pilotes de MotoGP. Quand ils se prennent un énorme high side, deux semaines après, ils sont là avec deux broches dans le coude. Voilà, c'est particulier, c'est sûr qu'on ne voit pas souvent en F1. Quoi.
C'était peut-être. Enfin, vu qu'il a posté une vidéo sur son compte Twitter, je crois. Et puis on a un peu le détail aussi dans un article de Motorsport. Enfin, c'était assez grave. Et bon, c'était bon, peut-être pour moi, c'est peut-être un peu trop tôt pour revenir quand même. Bon, il a réussi. Apparemment, la fin de course était quand même assez compliqué pour lui. Puis on l'avait vu pendant les premiers essais, être compliqué à sortir. Donc bon, bravo à lui d'avoir accepté la douleur pour pouvoir courir, mais. Pas sûr que ça soit bien raisonnable de faire un Grand Prix tout un week-end de Grand Prix avec deux fractures au poignet, quoi. C'est pas parce que les pilotes MotoGP le font que c'est forcément une bonne idée.
J'allais un peu dans ce sens-là au départ. J'avais des réserves sur le fait que Stroll prenne le départ du Grand Prix, notamment parce qu'on avait vu cette vidéo où il avait du mal à sortir de sa voiture dans les stands. Je pense qu'il est important de souligner que Stroll avait bien passé les tests d'extraction de la voiture de la FIA avec succès. Donc il était capable de sortir rapidement de sa voiture, c'est juste que quand il n'y a pas besoin, bah, il n'y a pas besoin de forcer. Donc effectivement, tant qu'à faire, autant se faire aider par son équipe. Et donc il avait le droit de courir puisqu'il pouvait s'extraire de sa voiture. Ses médecins lui ont donné le feu vert en lui disant « bon, bah, on n'est pas inquiet pour que les fractures s'aggravent ». Ça va juste être une question de « est-ce que tu peux supporter la douleur ?» Et Lance Stroll a dit « bon, bah, banco, on y va ». Et il savait à quoi s'attendre, et il y allait quand même. Quelque part, ça me surprend, parce que c'est pas vraiment dans l'image qu'il donne. On en a parlé plusieurs fois déjà ici. Lance Stroll nous laisse juste une impression de quelqu'un qui est pas motivé, qui a pas envie. Bah écoutez, pour faire ce qu'il a fait, il fallait vraiment avoir envie, je pense, pour, comme tu disais, Spider, pour surmonter cette douleur, pour monter dans cette voiture ce week-end-là. Bah il l'a fait, donc bravo à lui. Peut-être que il est peut-être beaucoup plus motivé pour faire de la F1 que ce qu'on pense. Peut-être que simplement il manque de charisme et c'est comme ça. C'est juste sa personnalité. Je sais pas ce que ça va donner pour la suite. Est-ce qu'on va changer d'avis sur Stroll ou est-ce que c'est juste passager? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est à saluer, comme tu disais, d'avoir eu le courage de surmonter ça pour le Grand Prix.
Je lui souhaite quand même que... Parce que bon, là, on se pose la question pour ce Grand Prix, mais pour le prochain, on peut imaginer qu'il ne sera pas complètement remis de toutes ses fractures à 100% non plus. Je lui souhaite que ça ne cause pas de suraggravation si jamais il a un accident ou ce genre de choses.
Et l'avantage, c'est que si ça se passe pas trop mal à Jeddah, il a quand même un mois après avec le
Chine
qui est tranquille.
Il y a quand même une image, moi, qui m'a un peu marqué, c'est quand il y a le contact avec Sainz au tout début du Grand Prix, où il a un gros mouvement de volant et la main gauche lâche quasiment complètement le volant, quoi. Il se retrouve avec la main en haut du volant, un peu à la mode Hamilton à ses départs là. Et donc ça se demandait s'il arrive vraiment à bien tenir son volant, quoi.
Pas complètement, parce que justement on a eu aussi les échanges radio. Je crois que c'était en essai libre. Il y a son ingénieur qui lui avait demandé d'essayer de, peut-être en qualif même, lui avait recommandé de prendre une ligne un peu différente dans le T1 pour mieux attaquer le T2. Et Stroll lui avait directement répondu à la radio: je peux pas à cause de la main.
Alors, il y a quelques manœuvres étranges que Stroll a faites pendant la course qui peuvent nous remettre en question un petit peu le fait que ce soit une bonne idée qu'il ait pris la course. En même temps, je trouve que ces manœuvres ne changent pas tant que ça par rapport à ce à quoi il nous a habitués. Donc,
C'est pas complètement faux.
certes, ça l'a diminué, mais il aurait peut-être pas conduit mieux en étant en pleine possession de ses moyens. Donc bon. Le problème n'est peut-être pas les fractures.
Terrible conclusion sur ce brave Stroll alors que on est en train de lui donner des points positifs. Bon, pour terminer sur Stroll, pour moi, ça va être un peu une saison importante pour lui parce que il a souvent été dans des pas très bonnes voitures. En 2020, il avait une bonne voiture. Pérez fait P4 au championnat, je crois. Et lui, il est nulle part. Pérez fait P4 et lui, il est 11e. Ça serait bien que le schéma se reproduise pas cette année.
Et paradoxalement, c'est peut-être une de ses meilleures saisons, puisque c'est là qu'il nous sort la pole position en Turquie. Sans problème mécanique, il aurait peut-être pu aller chercher la victoire, puisqu'il a mené pendant une bonne partie de la course. Il est monté sur le podium à Monza, il est monté sur le podium à Sakhir. C'était juste moins régulier comme saison.
Très bien, très bien. Dans nos points positifs, il y a d'autres grands vainqueurs, c'est Red Bull et Verstappen. Red Bull, on leur a attribué 3 points positifs et Verstappen, un petit point positif. Messieurs, est-ce qu'il y a besoin de revenir en long, en large, en travers sur cette domination qui pointe le bout de son nez?
Eh ben, voilà, tu t'as tout dit. Pour l'instant, sur ce Grand Prix, ils étaient seuls, quoi. Même Pérez, il était pas stressé du tout derrière Leclerc. Il savait qu'ils allaient remonter petit à petit, qu'ils allaient le dépasser sans trop de soucis. Ouais, ils étaient serein de chez serein, quoi. C'est ce qui fait encore plus peur, parce qu'en fait, on se demande même si Verstappen, il était vraiment à... On sait même pas vraiment le vrai rythme. La Red Bull, parce que Pérez avait au final un rythme dans la deuxième partie du Grand Prix qui était plus rapide que Verstappen. Donc la réalité de quel est son vrai rythme, ça se trouve, il laissait encore 5-6 dixièmes tranquille parce qu'il n'y avait pas besoin d'attaquer. On ne sait rien, mais ça fait peur.
Je suis tombé sur des extraits de la radio de Verstappen en fin de Grand Prix où son ingénieur n'arrête pas de lui demander de ralentir, ralentir en disant non, objectif une 37 s'il te plaît, objectif une 37, Leclerc derrière toi il a pas il est en une 37-2, roule moins vite. Et plusieurs fois il insiste, oh, le gap il est comme ça, ralenti. Et puis Verstappen qui est là, je veux bien ralentir, mais vous êtes sûr? Parce que non, mais là il n'y a pas de course en fait, ralenti. Et c'est très parlant, je trouve. Ils se permettent déjà de faire de l'économie, étant donné l'avance immense qu'ils ont eue. Il y a un autre signe qui est vraiment révélateur. Il faut regarder les stratégies de toutes les équipes. À peu près tout le monde a fait tendre, dur, dur sur la course. Bon, sauf Norris, on en a déjà parlé. Et donc, sauf les deux Red Bull, qui avait l'air de pas comprendre pourquoi les gens chaussaient deux trains de dur et étaient là, bah non, pourquoi vous faites ça? Nous ça va, on fait tendre, tendre, dur et ça marche très bien, regardez. Et on en reparlera plus tard, mais Williams a fait exactement la même chose.
Oui, et puis Verstappen, il les a gardés 20 tours, hein, son deuxième train de soft. Hein. Donc, ouais,
Plus longtemps que
il
certains ont
les a
gardé le
gardés.
premier dur. Ouais. Alors
C'est ça.
qui certes ont anticipé leurs arrêts, les premiers qui se sont arrêtés à la fin d'un relais de dur, l'ont fait pour anticiper, pour couvrir des undercuts, mais quand même.
Oui, mais pour surenchérir, moi, si je suis le tableau, là, j'ai même 21 tours, enfin 14e 36, donc 21 en excluant le tour de sortie, pour le deuxième jeu de temps de rusé de Verstappen. Comme vous le disiez, c'est non seulement c'est plus que certains, mais c'est plus que la quasi-totalité des premiers runs en dur de tout le monde.
Alors que justement, Bahreïn est un circuit qui est réputé pour user beaucoup les pneus. On utilise les trois composés les plus durs de la gamme Pirelli. Et pas mal cette Red Bull, hein.
C'est plus les trois plus. Je te reprends, tu as oublié les C0. Non, c'est plus les trois plus haut. Les
Bah
trois plus
si.
durs. Il y en a encore un plus dur. Bah non, il y a le C0.
Mais non.
Là, c'était C1, C2, C3.
Ah pardon, oui, pardon, je l'ai pris dans l'autre sens.
Le nouveau pneu s'appelle pas C6, il s'appelle pardon, C0.
Non, j'ai dit
ça s'appelle C1.
En plus, non, j'ai littéralement dit C3-4-5, c'est n'importe quoi, effectivement, merci de m'avoir repris. On a pris C1-2 et C1-C2-C3. Donc, voilà, j'ai dit n'importe quoi.
Il y a une petite émission de 4h30 qui revient dessus, si vous voulez.
Eh ben, je vais devoir la réécouter.
C'est vrai qu'on n'a pas pensé à mettre dans les points négatifs les médiums, les C2, mais personne n'a voulu les utiliser, quoi. Ils avaient la peste.
Ouais, ça aurait été une bonne proposition.
Il n'y a que Norris parce qu'il n'avait pas le choix, quoi.
Alors, juste pour enchaîner un tout petit peu sur Red Bull, bon, un peu fidèle à leur réputation, hein. C'est un sujet que tu as rapidement abordé tout à l'heure, Cazelu. Red Bull, ils sont dans ces situations où leurs rivaux Ferrari n'ont pas réussi à mettre un pied devant l'autre et leurs essais sont moins bien passés. Leur Némésis, Mercedes, ils sont pas au point. Il y a Challenger qui est une petite équipe, enfin relativement à eux, qui est une équipe du milieu de peloton qui pointe son nez au bas du podium. Ils sont en tête, ils sont bons princes, ils ont dépassé le budget de cap l'année dernière, donc ils peuvent essayer de faire, enfin il y a deux ans, mais c'était annoncé l'année dernière. Donc ils peuvent faire profil un peu tranquille. Et ils disent non, on va commencer à tacler les autres en les insultant, en disant « Oh, c'est une voiture copiée sur la nôtre, c'est une Red Bull verte, etc. » Après, Mercedes qui avait quand même... Alors Mercedes, quand on les taquinait, ils n'étaient pas... Enfin, contre Ferrari, quelquefois, ils avaient des propos ou des attitudes un peu guerrières, quoi. Mais quand ils étaient devant tranquille, bon prince, bon bah, ils étaient devant tranquille, bon prince. Red Bull, visiblement, ils ont besoin d'avoir quelqu'un avec qui se taper, quoi. Je trouve ça intéressant comme posture, parce que tu te dis, bon, ils pourraient faire la saison tranquille et se dire, bon, bah voilà, on est les meilleurs, on domine, on a tous les trucs. Non, il faut qu'ils aillent touiller, quoi, qu'ils aillent chercher. Je trouve ça intéressant.
Bah, je pense que c'est un peu une stratégie comme, hein. C'est, il faut se trouver un ennemi à essayer d'abattre, quoi.
Ça fait vraiment la brute de la cour de récré qui fait « Ah, mais j'ai envie de me battre, moi, mais il n'y a personne qui suit, là !»«
Il n'y a pas eu de violence !» Moi, je ne suis pas fan de Fernando Alonso, mais s'ils arrivent à titiller le Lonzo, il va répondre, et ça va... On pourra avoir une saison intéressante hors piste, au moins, je pense.
Je sais pas si j'ai envie de voir ça. Je sais pas. Quelque part, j'ai peut-être envie de voir quelqu'un qui répond à Red Bull et à Verstappen, mais je sais pas si j'ai envie de voir ça.
Ah, ça va être...
Après, ça peut être drôle, hein, des Red Bull qui cherchent à tacler certaines équipes ou certains pilotes, et puis ne pas avoir les pilotes et les écuries en face qui répondent, quoi. Ça serait drôle de qu'ils les laissent tout seuls dans leur polémique et dans leur petite querelle, quoi.
Alors, si c'est Alonso, lui, il va répondre. Aston Martin, à la rigueur, il pourrait faire profil bas et dire bah, « Allez-y, dites ce que vous voulez », mais Alonso, non, je n'ai pas l'impression.
Je pense que ça va pas durer longtemps. Parce qu'il a toujours été bienveillant vis-à-vis de Verstappen. Parce que dans l'univers Fernando Alonso, Lewis Hamilton, c'est l'antéchrist, donc Verstappen, c'est un allié. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer. S'il continue de les titiller comme ça et de lancer des pics, je pense qu'à un moment, il va...
Jusqu'au jour où il s'accroche en piste.
Ouais, c'est ça. Enfin voilà, moi c'est tout ce que j'avais ajouté pour Red Bull, donc je suis curieux de voir aussi comment ça va évoluer, ça. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de toujours se taper sur quelqu'un? Je suis curieux de voir. Dans notre tableau des points positifs, on a également donné des points, deux points à Gasly et deux points à Williams. Gasly, Williams...
Moi, je veux bien commencer.
Ah tiens, Cazelu, tu as donné... tu veux commencer, vas-y.
Ah, je vais commencer moi par Williams, parce que Gasly, moi je trouve pas grand chose à dire. Williams, bah, ça fait plaisir de les revoir déjà au milieu de plateau. Pas complètement perdu tout au fond, c'est déjà intéressant. Bah, j'espère que ça va être toute la saison comme ça. Sargent, au final, bon, on passera ses idées politiques, mais au moins en tant que pilote, il est pas si mauvais que ça. Donc voilà. Intéressant à voir.
Ah oui, très très bon, enfin très bonne course de début pour Sargeant.
Oui.
Enfin moi, à l'intersaison, je n'avais Dieu que pour Piastri. Le pauvre Piastri, il a une trapanelle qui marche pas. Sargeant, je me disais bon la Williams, voilà, faut pas trop en attendre. Et au final, il manque la Q2 littéralement d'un millième. Et en course, il prend un bon départ et il continue de grappiller, si je dis pas de bêtises.
Bah, il finit 12, je crois.
Ouais, il
12e
reste
à 12,
stable,
ouais.
il
8
reste stable.
secondes.
Il
Albon
reste 10,
stable, il
Sargeant
finit
12.
grappiller, mais...
12 avec ouais, à 8 secondes d'Albon. C'est sûr que chez Williams, ça change de Nicolas.
Ça.
Mais voilà.
Alors déjà, je te remercie, Wiku, d'avoir utilisé le mot littéralement à bon escient. Ça fait, c'est rafraîchissant et je pense qu'on en a tous besoin. Non,
Il a
sinon,
touché fin le podcast qui s'autocongratule.
oui, sinon, effectivement, excellente performance de Williams qui. Alors attention, hein, ce n'est que le premier Grand Prix, mais qui semble être dans le coup, qui remonte dans la hiérarchie, qui semble transparaître. Qui n'est plus largué comme vous le disiez, comme elle avait été pendant de nombreuses années. Albon qui va tout de suite aller chercher. Il est passé en Q3, j'ai un doute, où il était resté en Q2. Enfin, en tout cas, sa qualif était plutôt réussie. Et puis il va chercher les points dès la première course, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses saisons pour Williams. Et comme vous l'avez déjà souligné, une très belle première course de Sargeant qui n'a pas fait d'erreur ce week-end. C'est déjà pas mal. Et ouais. Il n'est pas très loin d'Albon. Comme tu dis, Chini, ça va changer de Nicolas Latifi. Bah, c'est de bon augure. Et puis, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est la seule équipe en dehors de Red Bull qui a fait cette stratégie en tendre, tendre, dur. En chaussant un seul train de dur.
Alors, en sachant qu'ils ont remis des softs à la fin avec la safety,
Oui, mais il partait sur les durs pour terminer, quoi.
ouais. Et pour info, non, Albon, il était
Q2, ouais.
dernier de la Q2 parce qu'il s'est foiré sur son seul tour, hein,
Ah oui, c'est
sur sa
vrai,
seule tentative.
ses temps ont été éliminés. Oui, non, pardon, ses temps ont été éliminés. Il avait... ça avait l'air bien au début, et puis finalement. Eh ben non.
Ouais, au final, les deux Williams, c'est partaient très proches.
Albon a fait d'ailleurs un magnifique départ. Je vous conseille de regarder le onboard, il est très joli.
Oui,
Et d'ailleurs, les deux Williams sont sur un beau départ dans l'ensemble.
Il prend trois places, si je dis pas de bêtises, sur le premier tour. Bah les deux prennent trois places sur le premier tour.
Non, Albon, je crois qu'il en prend même 4, je
Je me demande
crois.
s'il il en prend quatre, mais je crois qu'il se fait rapidement repasser par Ocon.
C'est ça. Et après, il y aura des passes nourrices, ouais.
Parce que
C'est ça.
comme tu le dis, j'avais en tête le plus 4, plus 3 pour les deux. Et quand je regarde le tableau des tours par tour,
Non,
il
non, là,
passe
c'est
de
qu'après.
P15 à P12, mais c'était à
Non,
la fin
c'est
du tour.
qu'après. Oui, c'est qu'au bout de 3-4 tours, Norris est redégringolé et il le redépasse.
Williams, qui en ayant fait évoluer sa voiture, semble avoir conservé l'avantage qu'elle avait l'an dernier en vitesse de pointe. Et notamment, il y a Yuki Tsunoda s'en est plaint quand il était à la lutte avec Albon pour le point de la 10e place. Il s'est plaint que non, la Factory n'avait pas la vitesse pour rivaliser avec Albon. Même avec le DRS ouvert, il avait du mal à la rattraper. Il rattrapait Albon dans la partie sinueuse, mais dès que c'était les lignes droites, la Williams partait et impossible de la rattraper. Et donc alors c'est bien que la Williams ait cet avantage-là, et puis manifestement ils savent en jouer, donc tant mieux pour eux.
Ce qui est super bizarre parce que dans les qualifs, c'était la voiture avec les pires temps dans le secteur 1 et le secteur 3, la Williams. Donc c'est assez marrant.
Williams, ça leur fait déjà un point. Déjà un point, et alors bon, il y a l'abandon de Leclerc qui leur permet de l'atteindre. Mais au final, c'est pas au gré d'une course si folle que ça. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait Ocon devant à la régulière. Mais devant, il reste 7 des 8 voitures top team, comme qui dirait, si on inclut Aston dedans maintenant. Donc il n'y a pas eu vraiment d'hécatombe devant. Donc c'est un résultat très solide de choper un point d'entrée de jeu comme ça.
Bah, vu que maintenant devant il y a Red Bull, bon un peu devant, et puis après trois autres top teams, il reste déjà plus beaucoup de place pour marquer des points quoi. Donc Williams, il va falloir qu'il joue comme là, dès qu'il y a deux abandonnons, à marquer un point, deux points, essayer de grappiller comme ça quoi. Et je pense que d'ailleurs, ça va être difficile pour les équipes du fond de grille à marquer des points, parce que devant, au final, il y a beaucoup plus de monde qu'avant.
C'est vrai. Il va falloir être là le jour où il y a un gros crash.
Ouais, Bottas, on te regarde.
Je sais pas si vous voulez ajouter autre chose sur Williams. Sinon, il y en a un qui a beaucoup regardé Williams aussi, c'est Pierre Gasly, qui a passé, quelques tours, une bonne dizaine de tours derrière la Williams d'Albon. Pierre Gasly, on lui a aussi donné 2 points. Bon, faut pas se mentir, c'est la remontée, hein, P20 à P9 en course. Un petit mot sur Pierre Gasly, messieurs ?
Bah oui, c'est là, comme tu dis, hein, c'est surtout pour la remontée c'est surtout la remontée qui est à saluer. Pierre Gasly qui avait complètement raté sa qualif en se qualifiant dans le bas de en se faisant éliminer en Q1, et puis de toute façon, voilà, donc, il partait dernier, hein, de cette course. Alors que Ocon, on le rappelle, était passé en Q3. Donc ça commençait très mal pour Pierre, qui s'est rapidement mis dans une stratégie décalée en s'arrêtant très tôt. Donc il avait le champ libre pendant une partie de la course. Bon, pendant l'autre partie, manifestement, il avait Albon. Mais voilà, encore fallait-il faire marcher cette stratégie à 3 arrêts, ce qu'il a fait brillamment avec son équipe, et il fallait le sortir. Alors il faut avoir la voiture pour sortir une stratégie comme ça. Manifestement, ça a fonctionné. Eh ben, bravo à lui et bravo à son stand.
Ah, moi, je dirais surtout bravo, oui, à lui, pas trop à lui, mais plus à son stand, parce qu'au final, en piste, il a pas fait beaucoup de mouvements, quoi. Il a gagné quand même la majorité des places grâce à la strat, quoi. Si je me rappelle bien, je crois qu'il a fait 2 dépassements dans tout le Grand Prix.
Ouais, pas 3. En se décalant, il était dans une stratégie a priori moins optimale, sauf qu'il avait du clean air, quoi. C'était ça l'idée. Tu pars un peu désavantagé, sauf si tu arrives à vraiment avancer, quoi. Et donc, visiblement, ça marchait.
Bah, c'est juste le premier à avoir à chausser les hardes, quoi. Après, ça s'est bien coupé, hein. C'est pas un mauvais Grand Prix.
Hein. Ça laisse songeur sur le rythme des Alpines, en fait.
Alors, on a pas encore toutes les réponses.
D'ailleurs, par contre, en parlant de Gasly, j'ai bien aimé Zou qui a mis des softs au dernier tour ou quasi pour claquer le meilleur temps et le prendre à Gasly.
Oui, c'est vrai, mais c'est Alpha qui est, mine de rien, qui a bien intégré la stratégie de blocage des autres, référence à ce qu'ils avaient fait en fin d'année dernière pour gêner les Aston en piste. Mais c'est le jeu.
Non, mais c'est le jeu, mais c'est très drôle, quoi. Ça m'a fait sourire.
J'avoue que j'ai pas compris tout de suite. Et puis, oui, effectivement, ils vont peut-être jouer dans la même catégorie cette saison. Donc, il faut prendre les devants tout de suite. Vu que Alfa Romeo est justement sa place tenue à un point près au classement l'an dernier, bah, il faut tout sortir dès qu'on peut, quoi.
J'en profite, hein, c'est notable que ça soit Alfa Romeo qui pense à ce genre de choses, parce qu'en général, Alfa Romeo, les dernières années, le côté exploitation et connaissance du règlement, c'était pas leur point fort. Hein. Alfa Romeo, c'était plutôt les gens à dire « Ah bon, il y a un point pour le meilleur tour ?»
Ouais, mais peut-être que le problème est passé chez Ferrari, hein, tu me diras. Ah bon. Non, après, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a peut-être pas grand-chose à rajouter sur Gasly pour moi, après.
Non. Je sais pas, je vois pas d'autres sujets sur le brave Pierre Gasly. Et du coup, avec ça, je vous propose de conclure cette section James Braddock. Pour refaire le bilan, sur les points négatifs, 4 pour McLaren, 3 pour Ocon, 1 pour Alpine, Mercedes, le moteur de Leclerc, Sainz et les infographies. Et du côté des bons élèves, pour les points positifs, 3 pour Red Bull et Aston Martin, 2 pour Alonso, Gasly, Williams, et 1 pour l'AMR23, Stroll et Verstappen. Messieurs, on passe à la section suivante, où Shinny va nous proposer de choisir le move du GP.
Du coup, alors le move du GP, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va élire le truc sérieux, on va essayer d'être sérieux dans cette partie-là, qui s'est passé, et on va essayer de déterminer qu'est-ce qui nous a marqué sur ce GP. Du coup, est-ce que quelqu'un veut parler de ses propositions ?
Alors moi j'ai une proposition qui est le dépassement d'Alonso sur Hamilton. Pour détailler un petit peu, que j'ai beaucoup aimé ce dépassement très construit où on voit que au virage 8 en épingle, Alonso prend une trajectoire pour décroiser tout en sachant qu'il ne va pas dépasser à cet endroit-là, mais il se place juste à l'extérieur, enfin à l'intérieur en sortie, donc à l'extérieur pour le virage 9 qui arrive, juste pour empêcher Hamilton de prendre sa trajectoire idéale. Et puis il freine plutôt pour tout de suite décroiser et plonger à l'intérieur du virage 10 pour passer. C'est une très belle manœuvre, un dépassement sans DRS. J'ai beaucoup aimé cette construction de dépassement.
Écoute, je vais pas argumenter longtemps. Moi, j'avais fait la même proposition. Pour les auditeurs qui nous écoutent, vous sachiez que moi, j'ai mis un petit item en mettant bataille Alonso Hamilton. Et Cazlu, après, me dit « Oh non, c'est mal formulé !» Il a mis le dépassement d'Alonso sur Hamilton. Ah,
je pensais que tu voyais plus large, en fait, parce que la bataille a duré plus que ce dépassement-là.
Ouais,
moi, c'était...
Elle a quasi duré deux tours. Elle était belle, d'ailleurs, la bataille entière.
Voilà, moi, c'est vraiment ce dépassement-là que je voulais, récompenser.
Et du coup, bah, on va aller laisser la parole à Spectre, du coup.
Ouais, bah moi je voulais mettre aussi ça, hein, mais bon, comme ça a été mis plus ou moins deux fois, je vais pas le rajouter. Du coup, moi j'avais remis ce qu'aurait pu être le premier drame pour Aston Martin, le presque carton de Stroll sur Alonso au premier tour, quoi. Le freinage presque manqué qui aurait pu mal terminer.
Et moi je vais finir en parlant, pour moi l'image marquante c'était le volant, va-t-il bientôt démarrer pour Oscar Piastri? Voilà, je le trouvais à la fois marquant quand même, surtout avec l'image du logo McLaren qui démarrait, et un début compliqué qui marque bien les débuts compliqués de McLaren. Bon, du coup, tous ces quatre-là, on va essayer de choisir celui qu'on va noter, que celui qu'on va décider étant le move vraiment du GP.
Moi, j'ai une petite question, Chini. Tu as mentionné le moment marquant, tu as mentionné l'image marquante.
Oui.
Y a-t-il une histoire de droit d'auteur?
Pourquoi?
Faut-il, va-t-on recevoir un courrier de la FMILU?
Alors, pour cette rubrique, peut-être pas. Je n'en dirai pas plus.
Aïe, aïe, aïe.
Du coup... Je pense qu'on est tous partis pour dire quand même que le dépassement ou la bataille était le move du GP.
Ouais, du coup,
je sens que tout le monde voulait en parler, Spager compris.
Ouais.
La question, c'est est-ce que vous avez plus apprécié la bataille au général ou juste le dépassement d'Alonso?
J'ai apprécié les deux, mais j'ai vraiment particulièrement apprécié le dépassement, personnellement.
Ouais, je mettrai en avant le dépassement. Quoi.
Pour moi, le dépassement rentre mieux, effectivement, en description de move. Tiens. Juste un appel du pied pour Lance. S'il nous refait le carton sur Alonso, là je vote pour ça.
c'est du chantage.
C'est de l'encouragement. C'est du sponsoring.
C'est voté le move du GP et donc le déplacement d'Alonso sur Hamilton. Bravo pour ce premier award de l'année. Et du coup, on va finir par contre sur le choix du titre de l'émission. Du coup, bah là, c'est un peu différent. Et ça va être plus quelque chose de marrant qui s'est passé durant le GP. Essayer de titrer l'émission avec quelque chose, un point de vue ou quelque chose qui va nous annoncer la saison ou ce GP. Du coup, pareil, je vais demander à Cazlu de faire ça ou ses propositions au choix.
Alors, j'ai été inspiré puisque j'ai trois propositions pour le titre de cet épisode. Ma première proposition, c'est Drive to Survive Red Bull. Ma deuxième proposition, c'est Allons-y Alonso. Petite référence pour ceux qui veulent. Et ma troisième proposition, c'est Dommage qu'il n'y ait que Red Bull en LMP1.
Bon, à vous, pareil, messieurs. Je vais demander à Wiku s'il a des opportunités de dépasser ça.
Oui, alors moi, c'était de toute façon mon titre d'émission, c'est un message d'intérêt général. C'est félicitations Max pour le troisième titre.
Et je vais demander à du coup Spager, est-ce que tu as des propositions pour un épisode de titre?
Un titre.
Je n'ai pas de proposition malheureusement. Ça me cette rubrique me rappelle une vie antérieure. Il n'était pas toujours agréable.
Je comprends.
On te forcera pas ici.
Et du coup, moi, je vais finir par mes deux propositions, qui sont trois top teams et un super top team. Et le deuxième, Alonso a deux doigts de se faire stroller. Du coup, quel titre nous allons choisir ?
Ah, moi, dans ma... Vas-y, Wiku.
Je vous avoue que si je vote pour Alonso, je pense que je me fais renier des déshérités. Parce qu'on n'est pas très Alonso dans la famille. Mais Alonso a le droit de se faire stroller. Je pense que c'est quand même un des trucs... le petit moment de frisson sur la course, en fait, qui a failli venir dès le début, deuxième, troisième virage.
Deuxième donc, freinage, quatrième virage.
Pardon, voilà. Quatrième. Et Alonso de toi de se faire stroller, c'est pas mal, je trouve. Ou Drive to Survive Red Bull.
Moi, le max, j'attendrai quand même le deuxième GP pour dire le troisième titre déjà là. Mais voilà.
Alors, dans la rubrique suivante, nous allons décider du... Dans la rubrique suivante, nous allons décider du titre de l'épisode suivant. Et donc, nous avons une proposition de Wiku.
Décider du titre de la saison.
Écoutez, je vais le proposer à chaque émission, de toute façon.
Bon. Vu que c'est moi qui ai mis Alonso à deux doigts de se faire stroller, bon, je vote bien sûr pour, évidemment. Est-ce qu'on vote ce titre-là, du coup ?
Moi, j'ai du mal à me décider. Moi, j'aime bien Alonso à deux doigts de se faire stroller, et j'aime bien deux de mes trois propositions. Ils sont Allons-y, Alonso, et Drive to Survive Red Bull. J'arrive pas à me décider entre ces trois-là. Donc, c'est ma shortlist.
Comme je l'ai dit, allons-y, Alonso. Moi, c'est niet, hein. Comme Wiku, je me fais tuer par quelqu'un, par mon père. Et Drive to Survive, j'attendrai au moins un GP. Bon.
Spider, un mot de sagesse, peut-être ?
Je sais pas, j'étais en train de réfléchir. J'aime bien, effectivement, le Alonso à deux doigts de se faire stroller. J'ai essayé de le modifier en mettant poignée dedans. Alonso a une poignée de centimètres de se faire stroller, un truc comme ça.
Alors, du coup, ouais, du poignée de se faire stroller.
Pour mettre en avant le fait qu'il avait des poignées cassées.
Ah non, du coup, je propose Alonso à deux poignées de se faire stroller.
Alors, la poignée de centimètres est pas mal, mais si ça fait un peu long.
Ah, on peut voter ça. Moi, ça me va. Du coup, on vote pour Alonso à deux poignées de centimètres de se faire stroller.
Ouais, à une poignée, parce que deux poignées,
c'est une
veut
poignée.
Ouais.
Allez, ça me va.
Allez.
Et du coup, écrit.
Deux, parce qu'il s'est pété les deux, mais bon, après, c'est vous qui choisissez.
Ouais, remarque.
Le peuple a parlé. Une poignée.
Okay. Mais poignée écrit, bien évidemment, POIGNET.
On vote pour ça. Allez. Et pour information, juste pour conclure sur le titre de l'émission, il faut savoir que si un jour un pilote ou une écurie ou quoi que ce soit gagne à la fois les synthèses des bons et mauvais points, le move du GP et le titre de l'émission, il aura la triple couronnette, le célèbre award important de la touche F1.
Alonso qui est passé très proche du coup de le faire.
C'est la première, en effet.
Que deux points positifs et Red Bull et Aston Martin l'ont surclassé avec 3. Mais il était pas loin. Ouais. Il a déjà eu le move du GP et le titre de l'émission, donc c'est comme en vrai.
Ah terrible,
ça lui fait la triple couronnette.
Ça lui échappe de si peu.
Là moi je dirais que pour le titre, c'est quand même plus troll que Alonso qui mérite le point, mais que Alonso. Mais bon.
Ça tombe bien, c'est ni l'un ni l'autre.
Bon, chers auditeurs, si vous avez l'idée de monter un podcast F1 et que vous ne trouvez pas de nom pour vos émissions, ce genre de choses, faites comme nous, faites-en une section. Ça fera du contenu. Bon, bien, messieurs, nous avons abordé un peu tous les points clés du Grand Prix. On va se diriger vers la fin de cette émission.
Oh.
Oui. Un petit mot quand même, on tenait à vous remercier parce qu'on a eu plein de messages très gentils sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Sur le Discord aussi, le Discord du SAV. Donc on tient à vous remercier pour ça. Nous, vous l'aurez remarqué, le podcast se lance. Là, ce podcast, cette émission-là fait pas du tout la même taille que celle de pré-saison. On l'avait annoncé à la pré-saison, le but c'est pas de faire des émissions de 4 heures à chaque fois. Ceci étant dit, le format se cherche encore. Je pense que ce format entre 1 heure et 2 heures d'émission, c'est à peu près ce qu'on va viser en général. L'avenir nous le dira si on adapte et si ça évolue, mais du coup, vos suggestions, remarques, commentaires sont toujours les bienvenus. Et encore une fois, on vous remercie pour les messages.
Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur.
Merci, en effet.
Et à propos de messages, vous l'aurez aussi constaté, pour l'instant, on n'a pas de Discord ou quoi que ce soit. On est toujours un peu dans le squat du Discord du SAV de la F1. Enfin, du SAV maintenant. Ça ne va pas évoluer tout de suite. Pour le moment, on va un peu rester sur le statu quo. Donc, si vous écoutez ce podcast par un autre biais, vous pouvez retrouver le Discord du SAV en passant par le site du SAV ou même en nous demandant directement sur Twitter ou ce que vous voulez, les champs de contact, etc. Pour l'instant, c'est un peu la contrainte. Dès qu'on aura un peu plus une idée fixe sur comment ça va se structurer, s'organiser, on n'hésitera pas à vous faire partager l'info. Et d'ici là, il me reste à vous remercier, Kazlu, Shinny, Spider, pour votre participation à cette émission.
Merci à toi, Wiku.
Merci.
Merci à toi.
Merci à vous, messieurs. Et vous, auditeurs, de vous remercier aussi et de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, etc. Bisous.
Ciao, à la prochaine.
Bisous, salut.